إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Mes frères, mes sœurs, cette introduction avec laquelle nous commençons toutes les prêches et tous les discours, c'est l'introduction avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait ses prêches. Et c'est pour ça, nous on suit ses pas dans cette chose-là aussi, dans la manière de commencer nos prêches, comme on le suit dans toute chose sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui est arrivé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. C'est l'histoire de ces trois grands qui sont sortis de chez eux à cause de la faim. وهذه القصة أخرجها الترمذي وهو حديث صحيح. Cette histoire elle est rapportée par l'imam al-Tirmidhi et c'est une version authentique. Donc selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à une heure où personne ne sort, c'est-à-dire très tôt le matin ou dans la nuit, et à un moment où il ne pourra rencontrer personne. Au moment où il est sorti, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu est venu à sa rencontre. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce qui t'amène, ya Abu Bakr? Il a dit: je suis sorti pour rencontrer le messager d'Allah, pour regarder son visage et pour lui passer le salut. Ils sont restés un peu de temps et voilà que Omar vient, sort aussi. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oh Omar, qu'est-ce qui t'a sorti de chez toi à cette heure-ci? Il a dit: la faim, ô messager d'Allah, j'ai faim. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre: moi aussi j'ai faim. Ils sont sortis et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: venez, on va aller à la maison de Abu al-Haytham al-Tayhan Al-Ansari. Et c'était une personne qui avait beaucoup de dattiers et beaucoup de moutons. Et il n'avait pas de servant. Arrivé chez lui, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont trouvé que son épouse. Ils lui ont demandé: où est ton compagnon? Elle a dit: il est parti chercher de l'eau. Ils sont restés peu de temps. Et voilà qu'Abu al-Haytham est arrivé avec une gourde d'eau qu'il a posée. Puis il est venu prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses bras et lui dit: je sacrifierai ma mère et mon père pour toi, au messager d'Allah. Puis il les a pris à son jardin. Il leur a mis quelque chose par terre pour s'asseoir dessus et il a été chercher une branche de datte. Il leur a posé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: choisis-nous des dattes. Alors Abu al-Haytham a dit: j'ai préféré que vous choisissiez, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, au messager d'Allah. Alors ils ont mangé et ils ont bu de cette eau et voilà que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: ceci, par celui qui tient mon âme dans sa main, ceci fait partie des bienfaits sur lesquels vous serez questionnés le jour du jugement dernier. Une ombre fraîche, des dattes
fraîche et bonne et de l'eau bien fraîche. Donc après cela, Abu al-Haytham est parti leur préparer à manger. Ça, c'était juste. Il a posé quelques dattes, de l'eau, pour les faire patienter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'égorge pas celle qui te donne du lait. Si tu veux sacrifier une bête, ne sacrifie pas celle qui te donne du lait. Ils ont mangé. Il lui a dit, est-ce que tu as un servant? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu al-Haytham, je vois que tu n'as pas de servant. Il a dit, non, je n'ai pas de servant. Il a dit, si on me ramène des prisonniers, viens, je te donnerai un servant. Alors on a ramené deux personnes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pas un troisième. Abu al-Haytham est venu le voir et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, choisis celui que tu veux. Il a dit, non, au messager d'Allah, au prophète d'Allah, choisis pour moi. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui on demande la vie, tu lui as donné ton dépôt. Donc il doit bien répondre. Prends celui-ci, car je l'ai vu faire la prière. Et sois bon envers lui. Alors Abu al-Haytham a été voir son épouse avec le servant. Et il lui a dit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire sois bon envers lui. Elle lui dit, tu ne pourras pas atteindre ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé, sauf si tu le libères, tu l'affranchis. Qala, il a dit, il est libre. Donc il est retourné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter l'histoire. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'a pas envoyé un prophète, ni un chef ou un calife, ou un lieutenant, sans qu'il n'ait bitanatani. Al-bitana, ce sont les proches, les conseillers. Sans qu'il n'ait deux sortes de conseillers. Des conseillers qui lui conseillent le bien et qui lui déconseillent le blâmable. Et un groupe de conseillers qui ne cesse de faire des manigances pour faire du mal. Et celui qui est protégé du mauvais groupe de conseillers, voilà celui qui est protégé. Donc voilà le hadith d'aujourd'hui. On a plusieurs leçons à en tirer. Je pense que là, le cours d'aujourd'hui ne suffira pas, mais on va essayer d'en tirer une partie, Inch'Allah. On voit dans ce hadith qu'il est permis à une personne de se plaindre d'une douleur qui le touche juste pour annoncer à ses frères. Pas pour se plaindre de la destinée d'Allah. Ni même parce qu'il est en colère de ce qu'Allah il a destiné. Mais juste il annonce à ses frères. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit à Omar ? Ce qui m'a fait sortir, c'est le jour, c'est la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas repris. Il a dit, moi aussi j'ai une part, moi aussi je suis comme toi, j'ai eu faim. On voit dans cette histoire l'ascétisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il n'était pas attaché à ce bas monde. Et de ses deux compagnons. Le meilleur des hommes, il n'a pas de quoi manger. Le meilleur des hommes, il est obligé de sortir dehors pour chercher à manger. Ils ont faim. D'ailleurs, ça a été rapporté dans d'autres histoires, dans d'autres hadiths, où il avait accroché deux pierres sur son ventre, sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, radiallahu anha, elle a rapporté que pendant deux mois, ils n'ont pas allumé le feu dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Leur seule nourriture, c'était de l'eau et des dattes. Deux mois. Il a été rapporté dans certains hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vu de ses yeux, de sa vie, un mouton michoui. Sallallahu alayhi wa sallam. Ah. Donc, voilà comment ils étaient avec ce bas monde. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ce bas monde est maudit, et maudit tout ce qu'il y a dedans, sauf un savant, un étudiant dans la science, et l'évocation d'Allah et tout ce qui en suit. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce bas monde, il avait la valeur auprès d'Allah d'une aile de moustique, un non-croyant, Allah ne lui aurait pas donné un verre d'eau. Mais comme ce bas monde, il ne vaut rien auprès d'Allah, il donne aux croyants et aux non-croyants. On voit dans cette histoire aussi qu'il n'y a pas de mal que tu vas chez ton frère en islam, tu manges chez lui, tu t'invites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est invité là, il est venu directement avec les compagnons, n'est-ce pas? Mais à condition que tu sais que ce frère-là, chez qui tu vas, il n'y a pas de problème. C'est la famille. Il est proche. C'est-à-dire, comme on dit, comme la famille. C'est un frère, on est vraiment proche. Il vient chez moi, je viens chez lui, je sais que je ne vais pas le déranger. Dans ce cas-là, tu peux faire ça avec lui. Mais les autres, que tu sais qu'ils vont parler, ou tu sais qu'ils vont te regarder d'un mauvais œil, tu ne le fais pas. Tu ne t'invites pas chez eux comme ça. On voit aussi dans cette histoire qu'il n'y a pas de mal à, quand tu es invité chez quelqu'un, et que tu sais que c'est quelqu'un qui, ça ne le dérange pas, que tu amènes des amis avec toi, sans le prévenir. Mais à condition, comme on a dit, qu'on sait qu'il y a une grande fraternité entre vous, que si tu amènes une personne, ou trois personnes, ou quatre personnes, ça ne le dérangera pas du tout. Par contre, si tu penses que ça peut le déranger, il faut demander la permission, comme il est venu dans d'autres hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois a été invité, il est venu à la porte de la personne, il a dit, ma'ihada, avec moi il y a tel, est-ce que tu le laisses rentrer ou non? Si il te dit entre, tu entres, si il te dit repars, tu repars. Il ne faut pas se vexer. Des fois, subhanallah, tu es invité. Ce n'est pas toi qui décides. Tu aimerais bien amener tes amis, mais tu ne peux pas. Ce n'est pas toi qui décides, ce n'est pas chez toi. Alors tes amis, ils se vexent. Ils disent, ah, toi tu pars sans nous. Je dis, ah, c'est moi. Si c'est moi, je vous invite tous, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas moi, sahib al-bayt. Oh, sahib al-bayt, peut-être il n'a pas de place. Peut-être il n'a pas les moyens. Peut-être il a invité beaucoup d'invités. Alors il ne peut pas accepter que tu viennes avec beaucoup de personnes. Donc tu sais, dans ce cas-là, tu ne vas pas avec plusieurs personnes et tastadinuhu. Si tu dois le faire, tu lui demandes la permission. Surtout à cette époque, il vaut mieux demander la permission. Wallah, à cette époque, je trouve peu de gens qui ont cette fraternité comme ça. Que chez lui ou chez moi, c'est pareil. Mais bien ou t'es bien, c'est la même chose. Tu prends chez moi ou tu prends chez toi, c'est pareil. Voilà, c'est comme ça. On voit dans cette histoire que la personne aisée, il doit être généreux envers les gens pieux, envers les gens de science, envers les gens de bien. Et il doit aimer faire ça, il doit être content de les inviter, content de leur faire du bien, de les aider. Et ça, c'est un signe de foi. La personne qui aime faire du bien aux gens de bien, aux gens de science, ça c'est un signe de iman. On voit dans cette histoire aussi qu'il est permis de parler à une femme étrangère quand il y a un besoin. Par exemple, là, ils sont venus nous demander « Ton mari est où ?» Elle a dit « Il n'est pas là, il est sorti chercher de l'eau. » Donc il n'y a pas de mal. La voix d'une femme, ça ne fait pas partie de sa nudité à cacher, à condition « amn al-fitna » qu'il n'y ait pas de tentation. Selon le besoin, tu t'es là, tu t'étales pas dans les paroles. Ça va, la famille, ça va, tes enfants, ça va, tu parles avec elle des heures là. Salamu alaykoum, est-ce que votre mari il est? Non, il est pas là. Barakallahu fik. Si t'as pas autre chose à dire, c'est pas la peine de parler des heures pour rien. Wa hakada, des fois il y a des femmes qui téléphonent à des gens pour la fatwa, les ulama ils leur répondent, ou ils viennent leur parler. Quand il y a une nécessité, un besoin, on parle, il n'y a pas de problème. Il faut aussi que la femme, elle commence pas à parler trop avec douceur et rigoler avec un ajnabi. Une femme étrangère, elle ne rigole pas avec un étranger. Elle rigole avec lui, blague avec elle. La hadala yamari. Elle parle selon le besoin, elle reste sobre. Barakallahu fikum. Elle reste sobre. On voit dans cette histoire aussi que cette femme, elle a fait entrer chez elle qui? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Omar et Abu Bakr, n'est-ce pas? Et son mari, il était pas là. Donc ça prouve que c'est permis pour une femme de faire entrer chez elle un homme qu'elle sait que son mari accepte chez elle à condition qu'il ne soit pas seul, qu'il est accompagné au moins d'un autre homme ou d'une femme, ou c'est-à-dire lui et son épouse par exemple, ou bien deux ou trois hommes, mais à condition qu'il y ait une totale confiance en eux. C'est des gens, on sait, on peut leur faire confiance. C'est des gens pieux, des gens qu'on sait qu'ils ont la politesse. Elle les fait entrer, ils se mettent dans une chambre, attendre dans une pièce, dans le salon par exemple, attendre le mari. Elle voit qu'à ses occupations. Elle va faire ce qu'elle a à faire, elle les laisse dans la pièce attendre le mari. Normalement, c'est comme ça. Mais dans cette époque, je vous conseille pas d'agir comme ça, parce que malheureusement, la confiance, elle n'y est plus. Et on entend toujours des histoires bizarres. Donc il vaut mieux s'éloigner de ça et fermer la porte du mal. Ça ne veut pas dire par là qu'elle et eux, ils s'assoient ensemble, ils rigolent ensemble, elle reste assise avec eux, elle boit la taille jusqu'à que le mari il arrive là. Elle les fait entrer, elle va dans ses affaires, et eux, ils restent l'attendre, Inch'Allah. Ils n'ont pas le droit non plus de serrer la main à une ajnabi, à une femme étrangère, qui n'est pas, eux aussi, ils ne sont pas un mahram pour elle. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith sahih, rapporté par l'imam al-Tabarani, il vaut mieux pour une personne de se faire transpercer la tête avec une aiguille de fer, plutôt que de toucher une femme qui lui est pas autorisée. Non. On voit de ce hadith aussi qu'on rentre pas chez soi n'importe qui. Des gens qui t'as pas confiance. Des gens qui sont là juste pour le hasad. C'est des envieux. Ils reviennent chez toi juste pour regarder qu'est-ce que t'as. Tiens, ils ont ça, ils ont ça. Après, ils sont jaloux, ils rentrent chez eux. Ah, t'as vu ? Celui-là, il n'a pas besoin de rentrer chez toi, barakallahu fik. Nasallahu salam wa l'afir. De se mélanger avec les gens, c'est plusieurs degrés. C'est pas tous ceux que tu connais, c'est tes meilleurs amis. T'as des gens, c'est juste des ma'arif, tes connaissances, c'est tes frères en islam. Khwanatul islam, on a une bonne entente, on a hukuk al-ukhuwa, les droits de la fraternité. Mais ça y est, c'est pas ton compagnon proche. Il y en a un autre, c'est un ami. T'as des relations d'amitié avec lui un peu plus poussées que tout le monde. Il y en a un autre, c'est un sahib. C'est un ami proche, c'est ton compagnon. Il est tout le temps avec toi. C'est pas tout le monde pareil. Donc, il faut bien choisir. Le ma'arif, les connaissances, le khouwa, on est tous des frères, on s'aime bien, on s'entraide, fil khair. Al-asdiqa, les amis, les relations. Wal-ashab, et les amis proches, les compagnons. Donc, il faut savoir chacun la mettre à sa place, inshallah, barakallahu fikum. On profite de ce hadith aussi que si quelqu'un vient comme ça à l'improviste chez toi, et subhanallah, normalement, le musulman, il est comme ça, il est prêt toujours à accueillir les gens. C'est pas comme certains qui font beaucoup de manières. Ah, tu m'as pas prévenu, tout plein de protocoles. Tu m'as pas prévenu, c'est pas. Eh, Akhil Karim, on est des frères. Je suis de passage, je t'accueille. Marhaban. Quelqu'un est bien, marhaban. Tu l'assois chez toi, tu lui donnes ce que t'as. T'es pas obligé de faire quelque chose de magnifique. Ce que t'as chez toi, tu lui devances, tu lui poses. Walhamdulillah. L'objectif, c'est la visite entre les frères. C'est pas la nourriture qu'on va manger. Donc. S'il vient fajatan, comme ça à l'improviste, tu lui poses d'abord ce que tu as, le temps de préparer la nourriture, comme il a fait ici. Il leur a posé des dattes et de l'eau. Entre temps, il est parti, il a sacrifié la bête, il a enlevé la peau, il l'a préparé, jusqu'à qu'il leur a amené un chevreau. Il a été égorgé, un chevreau. On voit aussi dans cette histoire, barakallahu fikum, que même les choses halal, licites, Allah il va t'en demander compte le jour du jugement dernier. C'est pour ça le musulman, il ne cherche pas à avoir trop de largesse, même dans le licite. Il vit, alhamdoulilah, bien, normalement. Mais sache que plus tu possèdes de choses, plus tu rendras des comptes. Naam. Allah tabarak wa ta'ala le dit. Puis vous serez questionné ce jour-là sur tous les bienfaits que vous avez eus. De l'eau fraîche, de l'ombre, et des dattes fraîches, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wallah, par celui qui tient mon âme dans sa main, vous serez questionné sur ça le jour du jugement dernier. Il y a quelque chose de plus simple que ça? Il y a quelque chose de plus simple que des dattes et de l'eau? Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous serez questionné sur ça le jour du jugement dernier. Combien nous, mashallah, maintenant de gaspillage, de nourriture? Alhamdulillah, quand tu accueilles quelqu'un, c'est bien de bien l'accueillir. Mais, dans notre vie journalière, il faut qu'on essaye d'être un peu plus. Moins gaspilleur, moins de pertes. Moi, maintenant, c'est devenu une mode, même chez les non-musulmans, cette façon de vivre. C'est devenu une mode. Il y a des non-musulmans dans le monde entier, ils ont des sites internet. Entre eux, c'est la mode de celui qui possède le moins de choses. Ils font des concurrences entre eux. Des gens riches, des gens très aisés, ils sont rentrés dans ce... Parce qu'ils se sont rendus compte que quand tu as beaucoup d'objets, tu es dépendant de tes objets. T'en veux toujours plus. Plus t'as de choses, plus déjà t'as de problèmes. Parce que chaque chose, elle est menée à se casser, ou à vieillir, ou à être changée. Donc, si t'as beaucoup d'objets, t'as beaucoup de choses à changer, à casser, à réparer. Moins t'as de choses, moins tu perds de temps avec ces choses-là. Et ils font une concurrence comme ça. Subhanallah, il y en a un, je crois, il a battu le record. Toute sa vie, il est dans un sac à dos. Toute sa vie, il est dans un sac à dos. Et il est fier de ça. Il dit, regardez. Ma vie, elle est dans le sac à dos. Deux paires de chaussettes, une paire de chaussures. Yani, qadr al-darura. Il a gardé quoi? Le minimum. Strict minimum. Non, on n'a pas dit de faire ça. Barakallahu fikum. Hein? Mais c'est pour comprendre qu'il faut un juste milieu. Il faut un juste milieu entre le monde de la consommation dans lequel on est. Toujours vouloir plus, toujours le nouveau, tout ce qui est neuf, tout ce qui est meilleur, les nouvelles technologies, le nouveau téléphone, le nouveau vêtement, le nouveau... Subhanallah, des fois t'achètes des vêtements, t'as l'impression que t'en as besoin, t'en as pas besoin. T'ouvres ton placard, t'as 30 kamis. T'as je sais pas combien de chaussures. Tu dis, mais subhanallah, je me suis fait avoir en fait. J'ai acheté alors que j'avais pas besoin. Cet argent-là, on peut en faire beaucoup de choses quand t'achètes pas des choses futiles qui servent à rien, toujours la même chose. Beaucoup de khair, il y a des gens, ils mangent pas. Il y a des gens, ils n'ont pas un toit où vivre. Il y a nos frères musulmans dans le monde, ils vivent, ils n'ont pas de maison, certains. Vous avez vu ce qui s'est passé en Corne d'Afrique les derniers mois. Une famine sans pareil. Être économe dans la vie, ça fait partie, comme il est venu dans le hadith sahih rapporté par Tirmidhi, d'une partie parmi 24 parties de la prophétie. L'iqtisad fi l'aïch. On voit aussi dans ce hadith qu'il ne faut pas être exigeant quand tu es invité chez quelqu'un. Tu ne lui demandes pas d'acheter des choses rares, chères, difficiles, ou des choses dont il pourrait avoir besoin. Mais tu te suffis de ce qu'il te pose, alhamdoulilah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, quand il est parti pour égorger une bête, il lui a dit, attention, ne sacrifie pas la bête dont tu prends le lait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas le mettre dans la gêne. Après, il ne va pas pouvoir avoir de lait. Alors il lui a dit, non, garde celle qui fait du lait. Sacrifie une autre. Parmi ce hadith aussi, on apprend que c'est une bonne chose de rendre l'appareil à une personne qui te fait du bien. Ou de rendre mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui faisait un cadeau, il rendait toujours mieux. Et certains bédouins, ils savaient ça. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas pour lui faire un cadeau. C'est juste une manière de prendre ce qu'il voulait chez lui. Il voulait quelque chose de bien, chez lui, il lui donne, il dit tiens, je veux ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tu veux quoi? Il dit tiens, donne-moi ça. En fait, c'était déjà prévu. Parce qu'il savait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bon. Et il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait toujours mieux que ce qu'on lui donnait comme cadeau. Alayhi salatu wassalam. Donc on voit dans cette histoire, il lui a demandé, est-ce que tu as un servant? C'est-à-dire il a voulu le récompenser et lui rendre l'appareil. Il lui a dit, écoute, quand on me ramènera des prisonniers, viens, je te donnerai un servant, quelqu'un qui travaille pour toi. On voit aussi dans cette histoire, barakallahu fikum, que la personne lui incombe de prendre l'avis des gens pieux, des gens raisonnés et des gens de science dans toute chose qu'il veut faire dans sa vie. Regardez cet homme, Abu al-Haytham, quand il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour choisir son servant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit choisis. Lui, il lui a dit non, choisis pour moi, au messager d'Allah. Il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait choisir mieux pour lui parce qu'il a plus de connaissances, plus de sagesse. Donc comme ça aussi, le musulman, dans toute chose qu'il veut faire, d'abord, premièrement, avant de faire un pas, il cherche à savoir qu'est-ce que Shara'i dit sur ça. Qu'est-ce que l'islam dit sur ça. Halal ou haram? Ça, c'est la première question. Licite ou illicite? Une fois qu'il sait cela, maintenant, il va demander. Il va dire, voilà, moi, je veux faire tel mashrour, tel projet, telle chose, tel travail, telle destination, tel voyage, je ne sais quoi. Toute chose. Est-ce que cette chose, dans l'islam, elle est bien ou elle n'est pas bien, ou qu'est-ce que vous me conseillez? D'abord, il prend l'avis des gens de science. La personne va lui dire, c'est halal ou haram ou makruh ou mubah ou mustahab. Il va lui dire le statut religieux de cette chose-là. Une fois qu'il a fait cela, le deuxième pas, c'est qu'il va aller demander aux gens qui ont l'expérience dans ce domaine. Par exemple, s'il veut ouvrir un commerce, il va avoir des amis pieux, commerçants, qui vont lui donner un conseil, comment faire son commerce. Si c'est dans un autre travail précis ou une œuvre précise, etc. Et troisièmement, l'istikhara, il consulte Allah tabarak wa ta'ala. Ça, c'est les trois choses qu'il faut toujours faire dans chaque chose qu'on veut faire dans sa vie. Trois choses par lesquelles on doit passer. D'abord, savoir qu'est-ce que Dini dit sur cette chose-là. S'il dit que c'est pas permis, tout de suite, ça y est, les deux autres choses, c'est pas la peine. On s'arrête là. On pense à autre chose. Une fois qu'on voit que dans la religion, c'est permis, dans ce cas-là, on commence à aller au deuxième pas et au troisième pas. Faire la prière de l'istikhara, on peut commencer tout de suite. Et ashura, prendre l'avis des gens qui ont la connaissance, des gens pieux qui sont dans ce domaine-là. Barakallahu fikum. On voit dans ce hadith, barakallahu fikum, que la personne à qui on demande son avis ou on consulte, c'est une personne à qui a un dépôt maintenant. On lui a donné notre confiance. On lui a demandé son avis. On lui a donné notre confiance. Alors il est obligé de te donner le meilleur des conseils. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une personne parmi les compagnons est venue lui faire bay'a, acte d'allégeance, de donner toujours le bon conseil aux musulmans, d'être loyal. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il te demande de bons conseils, donne-lui le bon conseil en toute loyauté et tout désintéressement. Donc quand on vient te demander le conseil, tu dois chercher à faire le meilleur, donner le meilleur avis. C'est pas tu sais que le bien il est dans quelque part, toi tu lui dis, hop, fais comme ça. En fait, toi, tu veux pas que cette personne elle réussisse. Et ça, gratuitement. Pas comme les conseillers qui sont payés. C'est ton devoir vis-à-vis de ton frère musulman. Quand il te demande un conseil, que tu lui donnes le bon conseil. Gratuitement. Si tu veux être un bon conseiller envers ton frère, il y a quatre choses à respecter. Premièrement, que tu comprennes bien la situation dont il est en train de te parler. Deuxièmement, que tu ressentes la grandeur de la responsabilité que tu as, c'est une amana, c'est un dépôt. Troisièmement, que tu réfléchisses bien, longuement avant de lui donner une réponse. C'est pas comme ça, t'en as rien à faire. Oh, fais-le, c'est bien. Ouais, c'est bien, fais-le. T'as pas réfléchi, tu sais même pas. Tu dis, oui, c'est bien, fais cette chose. En vérité, tu t'en as rien à faire. Quatrièmement, que tu ne taises pas une chose que tu connais. Si on t'a demandé, par exemple, quelqu'un vient te demander, Akhi, barakallahu fik, je voudrais faire du commerce avec Zayd. Qu'est-ce que tu me conseilles? Toi, tu sais que Zayd, t'es sûr? T'as des preuves que Zayd, c'est un voleur. T'as des preuves, tu sais, t'as des. C'est pas juste des oui-dire. Tu sais, t'as des preuves, des histoires, des témoignages de gens de confiance que Zayd, c'est un voleur. Ou c'est quelqu'un, tu peux pas faire du commerce avec lui. Et toi, tu lui dis rien, tu dis vas-y. Là, il y a tu lui dis, non, Akhi, je te conseille pas de faire du commerce avec Zayd. S'il te dit pourquoi, tu dis, j'ai des nouvelles sûres qui me prouvent que tu peux pas faire du commerce avec lui. C'est tout. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails. Tu lui donnes pas les détails, mais tu lui dis, j'ai des choses sûres, des témoignages qui me prouvent que tu peux pas faire du commerce avec cette personne. Barakallahu fik. C'est ton devoir. Pareil pour le mariage. Quelqu'un vient et te demande, Ya Akhi, je voudrais me marier avec une fille de telle famille. Qu'est-ce que tu me conseilles? Avec telle fille. Toi, tu sais qu'elle n'est pas sérieuse. Tu sais qu'elle n'est pas sérieuse du tout. T'es sûr? Tu lui dis rien? Là, il faut que tu dises. Ya Akhi, je ne te conseille pas. Tu ne viens pas sur le passé. Peut-être elle a fait taouba. Tu ne commences pas à sortir les histoires quand elle avait 9 ans ou 10 ans ou quand elle avait 18 ans, maintenant elle a 30 ans. Non. Là, maintenant. Tu sais que maintenant, elle n'est pas sérieuse. Il faut que tu le conseilles. Tu dis, moi, mon frère, je ne te conseille pas de te marier avec cette sœur. Là, elle ne te convient pas, cette sœur, barakallahu fik. Mais si elle a fait taouba, avant, elle n'était pas sérieuse. Maintenant, ça fait un an, deux ans qu'elle est sérieuse. Là, tu ne parles pas. Car le taouba, ça efface ce qu'il y a avant. Donc là, tu ne dis pas ce qu'elle a fait avant. Là, il y a juste là. Ce n'est pas permis pour toi de dire, je la connais, elle faisait ci, ça. Là, il y a juste. Tu ne dois pas dire, barakallahu fik. On voit dans cette histoire, barakallahu fikum, le danger des conseillers qui sont autour de toi. Il suffit que tu aies des mauvais conseillers, ils peuvent te pourrir ta vie. Ils peuvent te pourrir ton couple. Ils peuvent te pourrir une association. Ils peuvent te pourrir une école. Ils peuvent te pourrir une mosquée. Des mauvais conseillers. Ils peuvent aussi te pourrir une daoula, un pays. Et des bons conseillers, c'est le contraire. Ils peuvent t'emmener dans le khair. Tout le monde a autour de lui deux groupes de conseillers, des bons et des mauvais conseillers. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas même un prophète, ni même un calife, ni un lieutenant, ni quelqu'un qui a eu la lieutenance sur quelque chose, sans qu'il ait autour de lui deux groupes de conseillers. Des conseillers qui lui conseillent le bien et lui déconseillent le blâmable, et d'autres conseillers qui n'arrêtent pas de manigancer pour le mal. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin, il lui a dit, celui qu'Allah il a protégé contre les mauvais conseillers, bah lui il a gagné, c'est lui qui a été protégé. Et le hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit pour qui? Pour la femme. La femme aussi c'est un conseiller. Si tu choisis une mauvaise épouse qui te donne des mauvais conseils, quand tu veux dépenser fi sabilillah, elle dit non, dépense pas. Quand tu veux faire le khir, elle dit non, fais pas le khir. Quand, à chaque fois, elle te conseille pas le bien, elle déconseille le blâme. Elle te déconseille le bien, et elle te conseille le blâme. Et elle fait des manigances. Mais quand elle est comme cette femme pieuse, quand le sahabi Abu al-Haytham, il est retourné chez lui, il lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wastawsi bihi ma'roufa, il lui a dit, sois bon envers lui. Elle lui a dit, wallahi, je vois pas comment tu vas mettre en pratique la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans le libérer. La seule chose que je vois, c'est que tu le libères. Donc, subhanallah, elle l'a quoi ? Elle lui a donné un bon conseil. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a plu. Donc, il lui a donné ce hadith. Des bons conseillers et des mauvais conseillers. Alors, la personne, elle doit rapprocher de lui les bons conseillers et éloigner de lui les mauvais conseillers. On voit aussi dans ce hadith que certains hommes pieux, des fois, ils ont, subhanallah, ils ont les mêmes sentiments en même temps. Ou les mêmes idées en même temps. Ou ils penchent vers un même avis, souvent. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar, en même temps, ils ont eu faim, en même temps, ils sont sortis dehors. Ils ont pensé à la même chose en même temps. Et des fois, c'est possible, ça, que justement, alhamdulillah, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les âmes, c'est comme des armées. Celles qui se reconnaissent, elles se rapprochent, elles s'aiment bien. Et celles qui ne se reconnaissent pas, ikhtalaf, elles se dispersent et elles se repoussent. Donc, comme ça aussi, alhamdulillah, les sentiments des gens pieux, des fois, ils peuvent être communs. De même, on voit dans ce hadith, barakallahu fikum, que quand la personne, elle veut prendre un employé ou quelqu'un pour travailler avec elle, elle doit regarder deux caractéristiques. La capacité à faire le travail qu'il doit faire, c'est-à-dire la capacité physique, la capacité intellectuelle, c'est-à-dire les diplômes, je ne sais quoi, et l'expérience. Ça, c'est le premier côté à regarder. Et le deuxième côté, l'amana, que ce soit quelqu'un digne de confiance. Tu peux lui faire confiance. Des fois, certains, ils ont la capacité, mais ils n'ont pas la confiance. Tu ne peux pas leur faire confiance. Et des fois, tu peux leur faire confiance, certains, mashallah, shabab tayyibin, un jeune de la mosquée, mashallah, salat, il craint Allah. Mais miskin, il sait rien faire de ses mains. Tu ne peux pas lui donner un travail. Il sait rien faire. Il porte quelque chose, il le casse. Il est hakada. Et le mieux, c'est qu'est-ce que tu dois faire ? Choisir quelqu'un qui a les deux. Et ça, c'est dur. C'est rare. C'est pour ça, quand tu trouves quelqu'un, et les commerçants, ils savent, ils connaissent ma parole. Quand ils cherchent un employé, des fois, ils veulent un frère sérieux, mashallah. Ils ont du mal à trouver. Et quand ils l'ont, yahtaqirunahu, ils le méprisent, ils ne le payent pas bien, ils ne s'occupent pas bien de lui, ils ne lui donnent pas d'importance. Le commerçant qui est comme ça, il n'a rien compris. Il n'a pas compris que le plus important, le capital chez lui, c'est cette personne, plus que l'argent. Si tu trouves quelqu'un de digne de confiance, plus en plus, il est capable, il tient bien, il sait bien travailler, celui-là, il faut tout faire pour le garder. Il ne faut pas que tu le perdes. Dans toutes les structures, il faut agir comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui amène le khair, qui est digne de confiance, qui a des capacités, il faut faire tout pour le garder. Il ne faut pas le perdre. Sinon, c'est toi qui es perdant. On va finir, bi'idnillah et subhanahu wa ta'ala. On va parler de certains points concernant quand tu reçois un invité. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Bukhari, celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il honore son hôte. Son minimum, c'est un jour et une nuit. Et l'invitation, c'est 3 jours et 3 nuits. Ce qu'il y a après cela, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Donc premièrement, ce qui est obligatoire, quand un étranger musulman vient, c'est que un jour et une nuit, ça c'est l'obligation d'invitation. Un jour et une nuit, tu dois l'accueillir. La sunna, c'est 3 jours et 3 nuits. Après ça, c'est recommandé. Si tu peux, tant que tu peux, c'est recommandé. Barakallahu fi. Et on a vu dans ce hadith plusieurs politesses concernant Diyafa. Premièrement, la personne qui vient chez toi, tu l'honores et tu lui donnes tout ce dont il a besoin selon ta capacité. Ibn Abbas dit que quand ton invité vient, l'accompagner dehors, sortir avec lui, c'est une sunna. De même, la personne invitée ne doit pas s'asseoir dans la place d'honneur de la personne de la maison. Il l'a bi'idnihi, sauf avec sa permission. Aussi, s'il s'assoit, il ne s'assoit pas en face des portes ou en face des fenêtres pour ne pas voir, par exemple, si l'épouse du frère, elle passe, ou sa fille, ou kada, peut-être le hijab, il se lève, peut-être. Donc, il se met dans un endroit qui n'est pas face à la porte, qui n'est pas face à la fenêtre, où il pourrait voir des choses qu'il ne doit pas voir. Barakallahu fikum. Parmi les politesses aussi dans l'histoire de Ibrahim, les invités d'Ibrahim alayhi salam, comment il leur a devancé la nourriture, comment il s'est dépêché de leur faire à manger, leur a ramené. Il n'a pas dit, ah, qu'est-ce que tu veux? Je te fais quoi? T'as faim? Ça, c'est tariq al-Francia, il a dit. T'as faim? Non? Bon, il te donne rien. Tu restes assis comme ça. Subhanallah. Il va pas dire, oui, j'ai faim, fais-moi ça. Yahshem. Tu fais, tu lui amènes, tu lui poses. Tu lui, et pas seulement tu lui poses, tu dis, tu lui avances le plat, comme il a fait Ibrahim alayhi salam. Il lui a avancé le plat. Ala ta'kulun, ne mangez-vous pas, mange, tfaddal. Tfaddal, t'insistes. C'est pas, ah, ça va, mashallah, t'as faim, t'as soif? Non. Bon, d'accord. C'est fini. Il veut rien. Alhamdulillah, hada, il veut rien. Non. Barakallahu fikum. Hada, laissa min khuluqina. Tu lui devances ce que tu as de mieux. La bonne nourriture. C'est pas, tu te débarrasses, tu ouvres le frigo, tiens, ça, ça va bientôt pourrir, périmer. Allez. Tiens. Allah ybarak fik. Tfaddal. Là, tu lui devances ce que tu as bien, ce que tu as de frais, ce qui est bon, ce que tu aimes toi, barakallahu fik. Ce qui est mieux pour la santé, ce qui est le meilleur aussi. Aussi, tu dois présenter d'une façon douce. Tu utilises toutes les bonnes politesses qui peuvent le mettre à l'aise et qui peuvent faire en sorte qu'il se sente bien. De même, pour finir, barakallahu fikum, tu demandes sa situation. Comment vas-tu? Comment va ta famille? Est-ce que tu as des besoins d'aide? Est-ce que tu... Hakada. De même, c'est détestable de veiller la nuit. Sauf pour quelqu'un qui prie, ou qui étudie la science, ça rentre aussi dans le dhikr, ou musafir, ou un voyageur, ou bien musahab al-dhif, ou bien un invité est chez toi pour lui tenir compagnie. Là, tu peux veiller la nuit. Il ne faut pas aussi trop le faire. Ah, mais allez, c'est un invité, on est invité. Toutes ces nuits, il est passé à veiller la nuit. Cette personne-là, après, il a du mal à se lever le fajr. Peut-être il avait l'habitude de faire qiyam al-layl, il ne fait plus qiyam al-layl. Après, le lendemain, il a des a'mal, des actions à faire, des choses à faire, il ne les fait pas. Fala tukthir min hada. Pas trop. C'est bien toujours, surtout ici dans ce monde où on est chacun coupé l'un de l'autre, chacun tout seul. C'est bien de s'inviter, de se voir, de renforcer les liens de fraternité. C'est important. Pas chacun reste dans son coin, barakallahu fikum. C'est une bonne chose. Mais des fois, il y en a, ils abusent. C'est tout le temps. Tous les soirs, tous les week-ends. Après, il n'a plus de programme. Il n'a plus de programme ni dans le Coran, ni dans l'ilm, ni dans quoi que ce soit. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.